plaît, maestro.
Oh, Berlioz, s'il vous plaît, chérie, installez-vous. Faites-moi plaisir, chantez votre chanson.
Oui, maman. Do, mi, sol, do, sol, mi, do. Le vrai musicien répète avec ardeur de savante gamme des arpèges.
Veux-tu lire ce qu'il y a d'écrit au-dessus de la partition?
Demandait la dame.
Moderato cantabile?
Dit l'enfant. La dame ponctua sa réponse d'un coup de crayon sur le clavier. L'enfant resta immobile, la tête tournée vers sa partition.
Et qu'est-ce que ça veut dire, moderato cantabile?
Je sais pas.
Et une femme, assise à 3 mètres de là, soupira.
Ah, tu es sûre de ne pas savoir ce que ça veut dire, moderato cantabile?
Reprit la dame. L'enfant ne répondit pas. La dame poussa un cri d'impuissance étouffée, tout en frappant de nouveau le clavier de son crayon. Pas un cil de l'enfant ne bougea. La dame se retourna.
Madame de Barède, quelle tête vous avez là?
Dit-elle. Anne de Barède soupira une nouvelle fois.
Oh, à qui le dites-vous?
Dit-elle. L'enfant, immobile, les yeux baissés, fut à seul se souvenir que le soir venait d'éclater. Il en frémit.
Je te l'ai dit la dernière fois, je te l'ai dit l'avant-dernière fois, je te l'ai dit 100 fois. Tu es sûr de ne pas le savoir?
L'enfant ne jugea pas bon de répondre. La dame reconsidéra une nouvelle fois l'objet qu'il était devant elle. Sa fureur augmenta.
Ça recommence.
Dit au bas Anne de Barède.
Ce qu'il y a,
continua la dame.
Ce qu'il y a, c'est que tu ne veux pas le dire.
Anne de Barède aussi reconsidéra cet enfant de ses pieds jusqu'à sa tête, mais d'une autre façon que la dame.
Tu vas le dire tout de suite!
Hurla la dame. L'enfant ne témoigna aucune surprise. Il ne répondit toujours pas. Alors la dame frappa une troisième fois sur le clavier, mais si fort que le crayon se cassa, tout à côté des mains de l'enfant. Celle-ci était à peine éclose, ronde, laiteuse encore, fermée sur elle-même. Elle ne bougea pas.
« C'est un enfant difficile !»
osa dire Anne de Barède, non sans une certaine timidité. L'enfant tourna la tête vers ses voix, vers elle. Vite, le temps de s'assurer de son existence, puis il reprit sa pose d'objet face à la partition. Ses mains restaient fermées.
« Je ne veux pas savoir s'il est difficile ou non, Madame de Barède !»
dit la dame.
« Difficile ou pas, il faut qu'il obéisse, ou bien... Recommence !»
dit la dame. L'enfant ne recommença pas.
« Recommence, j'ai dit !»
L'enfant ne bougea pas davantage. Les bruits de la mer, sans le silence de son obstination, se fit entendre de nouveau. Dans un dernier sursaut, les roses du ciel augmenta.
« Je ne veux pas apprendre le piano !»
dit l'enfant.
Bienvenue, chers auditeurs. Pour ce troisième opus, les yeux ont l'oreille musicale. Le prélude nous venait de Moderato Cantabile, écrit par Marguerite Duras, lu à 4 voix avec Viviana à la narration, Will à l'enfance butée, Camille au professorat de piano sadique et Caroline à la bourgeoisie ennuyée. Pour cette édition tierce, l'équipe de Les yeux ont des oreilles s'est donc prêtée au jeu des points communs et contrepoints entre littérature et musique dans toutes ses variations pour choisir ses lectures et les virgules correspondantes. Je dois vous prévenir que moi, Caroline, votre chef d'orchestre, j'ai autant de culture musicale qu'un pigeon. Bouh, Will. Mais tout ira bien. J'ai révisé le vocabulaire musical sur Internet et pour que vous le voyez bien, j'ai pas lésiné sur les métaphores. Soit dit au passage, si c'est Will qui a suggéré les Aristochats de Disney en ouverture, c'est Camille qui a insisté, corps écrit, pour qu'on le garde, délogeant ainsi du Wagner. C'est dire le niveau de ce qui va suivre. Car la musique, comme la littérature, est intimement liée à la façade sociale. Malgré l'éclectisme d'écoute qui caractérise les playlists à l'heure d'Internet, je vous laisse méditer sur cette phrase, on n'écoute pas la même musique selon le groupe ethnique, le niveau socio-économique, le groupe d'âge. Et surtout, il y a la musique qu'on écoute ouvertement, dont on se vante, et celle qu'on écoute au contraire en privé, en cachette, seule dans le noir. Le porno musical, si vous voulez. Un autre point commun étant souvent une boîte de mouchoirs. Preuve à l'appui. Comme vous aurez remarqué, j'aime poser des questions grossièrement indiscrètes aux dépens du reste de l'équipe. Cette fois, je leur ai donc demandé de m'amener un échantillon de leur face musicale lumineuse et de leur face cachée. Qu'ils assument forcément un peu, sinon ils ne la passeraient pas à l'antenne, mais pas complètement, hein. On va commencer avec Viviana. Soit Viviana nous le dit, soit peut-être que Will sait ce que c'est.
Der Höllerhart kocht in meinem Herzen, de Mozart.
Oui,
c'est ça.
La flûte à chanter.
Donc c'est Viviana qui est la plus classe.
Nos musiques sont classes aussi.
Oui, mais pas de la
même
manière.
Style quand même.
Face cachée de Viviana. The light and let it shine.
Se transforme en mode de
la boîte des transistors.
Mais c'est deux bonnes musiques.
Ouais. Mmh. Pas mal. Ouais. Ensuite, je voulais Will.
Donc, allons-y. Musique officielle. Donc, tu nous dis ce que c'est ?
Venus de Lady Gaga.
Voilà.
Bon. Lady Gaga. C'est la musique que j'écoute le plus en ce moment, c'est-à-dire à peu près 5 fois par jour.
Et la musique inavouable. And I'm still waiting for your call. Regard perplexe. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est ?
Alors en fait, c'est pas une musique, on va dire, qui est sortie sur un album. C'est un ami italien qui fait la musique. Il s'appelle, son nom de scène, c'est Jesus. Et en fait, c'est une musique qui est parfois un petit peu rétro.
Bizarre. Il assume quand même assez bien, je trouve.
Oui, je trouve. Ouais, c'est pas humiliant au sens de.
Pour c'est un l'instant. Peu la promotion aussi.
Tout va bien. on passe à Camille. Daphne. Tu me dis ce que c'est ?
Alors c'était Lia Ice, une jeune chanteuse new-yorkaise que j'aime beaucoup. Et c'est totalement assumé parce que c'est une chanteuse assez cool que j'ai découvert sur les Inrock. Donc c'est, tu vois, c'est tendance, tout ça, tu peux en parler en société, passer pour une meuf qui est vraiment dans la vague.
Ouais, c'est joli aussi. Et maintenant, pour le côté moins, on peut en parler en société de Camille. Et toute l'équipe et Robin se met à danser. C'était donc, pour ceux qui ne l'ont pas compris,
Shakira, Salé al Sol, donc version espagnole en plus. Et ça, c'est l'optimisme non assumé, tu vois. C'est quand t'as une fille pas cool et que tu danses comme une tarée là-dessus.
Pas mal.
Ce qui va faire très plaisir à ma mère, parce qu'elle est une grande fan de Shakira.
C'est bien.
Et comme ça, on a un peu d'espagnol quand même. Bon, bah, il reste plus que moi, du coup. Dorothy was right, though. C'était donc Old Yellow Bricks, des Arctic Monkeys, qui est un groupe que j'aime beaucoup et qui est quand même assez cool, je pense. Voilà, alors ma face moins lumineuse. In the Shadows de Ramses. C'était peut-être cool quand je l'écoutais en cinquième, mais maintenant, plus tellement le côté émo, genre je montre ma douleur et tout, j'assume plus trop. Bah, ça fait quand même danser en studio, donc c'est toujours ça. Mais...
Et puis c'est toujours utilisé pour le générique de l'émission de Ruquier le soir, on n'est pas couché.
Ah bah, si c'est Ruquier en ce cas-là, c'est pas du tout honteux.
Ou au contraire, beaucoup.
On ne va pas rentrer là-dedans. Donc en premier mouvement, l'antenne est à Willem, qui se plaît à nous faire entendre la voix unique d'auteur dont nous n'avions jamais entendu parler avant.
Pourtant qu'ils sont encore vivants.
Je lui laisse donc le soin de vous présenter Alto Solo d'Antoine Volodine, qui d'après le titre d'une critique mêle bruit de bottes et battement d'ailes.
C'est également l'histoire d'un violoncelliste. D'un violoncelliste et d'une altiste. Un homme et une femme, mais en fait, ils sont quatre. Quatre jeunes adultes, dont aucun n'a encore atteint la trentaine. À la sortie du conservatoire, ils ont constitué un quatuor, le quatuor Gelas. Un quatuor qui mène une vie sans foyer, consacrée à la musique, difficile. Ils se trouvent au seuil d'une carrière prometteuse, mais ils débutent, et quelle que soit leur qualité, ils devront attendre plusieurs années avant d'être reconnus par la critique comme des valeurs sûres. Aucun d'eux n'étant lié au milieu politique qui sympathise avec le pouvoir ou ses satellites, la voie de la réussite sera, pour eux, plus longue. Toutefois, ils ont déjà un public et ils ne jouent pas devant des salles vides. Ils effectuent des tournées dans les nombreuses provinces du pays et même à l'étranger, quand la tension internationale le permet, quand les capitales alliées ne sont pas en guerre contre le Sud. L'altiste, Jackie Esterkan, est une fille sans grâce physique particulière, avec des cheveux châtains qui encadrent durement son visage. Son ossature plutôt forte la dessert, lui alourdit un peu les hanches. Mais c'est tout de même une fille, et les trois éléments masculins du quatuor sont amoureux d'elle. Ils la courtisent, et parfois, sans que cela nuise à leur bonne entente, à la cohésion du groupe, elle accorde ses faveurs à l'un ou à l'autre. En dehors de la promiscuité des voyages, qui fouettent les sangs et favorisent le libertinage, la source de ses succès sentimentaux doit être cherchée dans ses talents de musicienne. De son alto, elle tire des sons merveilleux. Le niveau technique du quatuor est bon, mais Jackie Esterkan possède un jeu d'une sûreté sans égale, très supérieur à celui de ses partenaires. Un jour, le violoncelliste l'écoutera et se tuera. À la fin des concerts, quand les auditeurs réclament un bis, les deux violonistes et le violoncelliste s'effaçaient et Jackie Esterkan s'avançait seule en direction du public. Elle exécutait des pièces qu'elle avait adaptées elle-même, des transcriptions de Canto Dielas, le compositeur fétiche du quatuor, des œuvres de Danilo Tagrarian, Sebasti Palatai, Naiso Baldakshan, leurs œuvres d'exil les plus déchirantes. Les respirations se tendaient. Soudain, les larmes aux yeux, peu de gens parmi les auditeurs concevaient qu'un unique instrument vibrait devant eux, que quatre cordes seulement chantaient pour eux, si envoûtante que se révélait la virtuosité de l'interprète. Jackie Esterkan créait autour d'elle une sphère sonore dont la richesse harmonique dépassait les limites de la sensibilité et de la mémoire humaine. À ces moments de somptueuse émotion, les murs s'écroulaient, le théâtre flottait, dérivait.
Merci Will. On n'est pas exactement dans le même registre entre ton roman et la virgule de Michel Delpech, Rimbaud chanterait. Mais je trouve qu'il y a quand même une résonance entre cet altiste qui emploie la musique contre un régime politique totalitaire et Rimbaud, l'insaisissable, l'homme aux semelles de vent. Après, si l'importance donnée à la variété française dans cette playlist de cette émission vous irrite les oreilles, plaignez-vous auprès de Robin. Pour faire contrepoint, voici ce que le poète Edwin Morgan a fait d'une citation de John Cage, musicien d'avant-garde dont l'œuvre la plus connue est plus de 4 minutes de silence total. Il la fragmente, la recompose et la duplique jusqu'à en tirer un sonnet. La citation est la suivante. « I have nothing to say, and I am saying it, and that is poetry, John Cage. » Et voici le sonnet, intitulé « Opening the Cage, 14 variations on 14 words. » « I have to say poetry, and is that nothing, and am I saying it? I am, and I have poetry to say, and is that nothing saying it? I am nothing, and I have poetry to say. » And that is saying it. I, that am saying poetry, have nothing, and it is I, and to say. And I say that I am to have poetry, and saying it is nothing. I am poetry, and nothing. And saying it is, to say that I have. To have nothing is poetry, and I am saying that, and I say it. Poetry is saying I have nothing, and I am. To say that, and it. Saying nothing. I am poetry, and I have to say that, and it is. It is and I am, and I have poetry saying say that to nothing. It is saying poetry to nothing, and I say I have and am that. Poetry is saying I have it, and I am nothing, and to say that. And that nothing is poetry, I am saying, and I have to say it. Saying poetry is nothing, and to that I say, I am. And have it.
On m'a pas parlé de Marx, rival de Tocqueville, ni Weber, ennemi de Lukács, mais on m'a dit qu'il fallait voter. Elle n'a pas caché l'existence, mais a tué celle de Rousseau, de Proust, de mort à crédit. Ils n'ont fait aucun commentaire sur mes 68, ni commentaire sur la société du spectacle, mais ils savaient que Balzac était plié à la ligne, qu'on pouvait en tirer un certain mépris.
C'était donc un extrait de France Culture, d'Arnaud Florent-Didier, sur les livres qu'on ne lui a pas fait lire, portés à notre attention par Camille. Et c'est cette même Camille, transition très harmonieuse, qui devient maintenant notre premier violon. Elle nous lit un extrait de « L'insoutenable légèreté de l'être » de Milan Kundera, et ce, à ses risques et périls, que vous comprendrez plus tard pourquoi.
La musique. Pour Franz, c'est l'art qui se rapproche le plus de la beauté dionysiaque, conçue comme ivresse. On peut difficilement s'étourdir avec un roman ou un tableau, mais on peut s'enivrer avec la 9e de Beethoven, avec la sonate pour deux pianos et percussions de Bartok, et avec une chanson des Beatles. Franz ne fait pas de distinction entre la grande musique et la musique légère. Il aime pareillement le rock et Mozart. Pour lui, la musique est libératrice. Elle le libère de la solitude et de l'enfermement, de la poussière des bibliothèques. Elle ouvre dans son corps des portes par où l'âme peut sortir pour fraterniser. Il aime danser, et regrette que Sabina ne partage pas avec lui cette passion. Ils dînent ensemble au restaurant et les haut-parleurs accompagnent leur repas d'une bruyante musique rythmée. Sabina dit « C'est un cercle vicieux. Les gens deviennent sourds parce qu'ils mettent la musique de plus en plus fort. Mais comme ils deviennent sourds, il ne leur reste plus qu'à augmenter le volume. « Tu n'aimes pas la musique ?» demande Franz. « Non, » dit Sabina. Puis elle ajoute « Peut-être que si je vivais à une autre époque. » Et elle pense à l'époque de Jean-Sébastien Bach où la musique ressemblait à une rose épanouie sur l'immense plaine neigeuse du silence. Le bruit sous le masque de la musique la poursuit depuis qu'elle est toute jeune. Quand elle était étudiante aux Beaux-Arts, elle devait passer les vacances entières au chantier de la jeunesse, comme on disait alors. Les jeunes étaient logés dans des baraquements collectifs et travaillaient à la construction de hauts fourneaux. De 5h du matin à 9h du soir, les haut-parleurs crachaient une musique gaie et on ne pouvait y échapper nulle part, ni au water, ni sous le lit, ni sous la couverture. Il y avait des haut-parleurs partout. La musique était comme une meute de chiens lâchée sur elle. Elle pensait alors que l'univers communiste était le seul où régnait cette barbarie de la musique. À l'étranger, elle constate que la transformation de la musique en bruit est un processus planétaire qui fait entrer l'humanité dans la phase historique de la laideur totale. Ils dînèrent, ils montèrent dans leur chambre, firent l'amour, puis les idées commencèrent à se brouiller dans la tête de Franz, sur le seuil du sommeil. Il se rappelait la musique bruyante du restaurant et se disait « Le bruit a un avantage, on ne peut pas y entendre les mots. » Et il eut alors envie, confusément et irrésistiblement, d'une musique immense, d'un bruit absolu, d'un bel et joyeux vacarme qui embrasserait, inonderait, étoufferait toute chose, où sombrerait à jamais la douleur, la vanité, l'insignifiance des mots. La musique, c'est la négation des phrases. La musique, c'est l'antimot. Il avait envie de rester avec Sabina dans une longue étreinte, de se taire, de ne plus prononcer une seule phrase et de laisser la jouissance confluer avec la clameur orgiaque de la musique. Dans ce bienheureux vacarme imaginaire, il s'endormit.
Merci Camille. Et la virgule venait encore de ta playlist, Les Métamorphoses du Vide par le Chapelier Fou, alias Louis Varinsky.